Vous écoutez
RMC. RMC, l'interview.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h35 sur RMC et RMC Story. Tout de suite, l'interview. Et c'est vous, Emmanuel Wargon. Bonjour.
Bonjour, Apolline.
Emmanuel Wargon, vous êtes ministre délégué chargé du logement. On va parler dans un instant de la question de la trêve hivernale. C'est aujourd'hui que ça commence. On va parler des squats, de la maison individuelle dont vous aviez dit que c'était pas forcément le modèle d'avenir. Mais je voudrais d'abord vous interroger sur ce ton qui commence à devenir assez périlleux entre les Anglais et les Français. On l'apprend à l'instant, la ministre des Affaires étrangères anglaise qui dit exiger ce matin de la France qu'elle retire sous 48 heures ces menaces totalement déraisonnables liées au désaccord entre les deux pays sur la pêche, sous peine de répondre à Paris sur les terrains légaux et commerciaux. Ça veut dire quoi ? On rentre dans une sorte de guerre froide ou guerre commerciale avec les Anglais ?
Vous savez, la France défend ses positions. Et nous avons raison de le faire. Les Anglais se sont engagés dans des traités internationaux et les Anglais doivent respecter ces traités. Après, la parole la plus importante, c'est celle du président de la République et du premier ministre anglais. Ils se sont entretenus hier. Emmanuel Macron a parlé à Boris Johnson. La position de la France est connue et nous attendons que les Anglais respectent les engagements qu'ils ont pris. Ça ne va pas plus loin.
Donc, du côté de la France, on ne cédera pas. Emmanuel Wargon, vous êtes ministre délégué du logement. La trêve hivernale, c'est aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que les derniers jours, en réalité, il y a eu plus d'expulsions ?
Non, pas du tout. Nous avions un enjeu important qui est de limiter au maximum les expulsions locatives. Et puis, bien sûr, tout en faisant droit aux propriétaires. Parce que moi, je pense aussi aux propriétaires qui ont besoin de récupérer un bien qu'ils ont mis en location et puis le locataire ne paye pas. On a fait environ, j'ai pas le dernier chiffre parce que j'ai pas le chiffre du mois d'octobre, mais fin septembre, on a procédé à 6600 expulsions locatives avec le concours de la force publique, c'est-à-dire la police ou les gendarmes viennent, ce qui nous amène probablement aujourd'hui autour de 8000. On en fait une année entre guillemets normale 15000, donc on en a fait moins que d'habitude.
Pourquoi ?
Parce que plus de médiation, parce que un peu plus d'argent dans les fonds de garantie pour les impayés de loyer qui permettent aux personnes en difficulté d'être soutenues temporairement et de recommencer à payer leur loyer. Et nous indemnisons mieux, c'est pas encore parfait, mais nous indemnisons mieux les propriétaires quand on attend pour expulser. Parce que quand on attend pour expulser, pour donner une chance au locataire, le propriétaire, pendant ce temps-là, il touche pas son loyer. Donc on a aussi augmenté cette indemnisation. Donc c'est une politique, l'expulsion, quand on arrive à l'expulsion, c'est un échec. C'est un échec pour la personne, bien évidemment, qui va être dans une situation très compliquée. C'est aussi un échec parce que toutes les procédures de médiation n'ont pas marché.
Vous n'avez pas réussi
à... réussi à anticiper. Et là, avec moins d'expulsions, ça veut dire qu'on a moins de situations catastrophiques. Mais l'important, c'est vraiment de soutenir à la fois les locataires pour qu'ils arrivent à passer les périodes difficiles et puis après d'aider les propriétaires.
Emmanuel Wargon, justement, il y a un propriétaire qui est avec nous en ligne. Une propriétaire, en l'occurrence, c'est Sophie. Bonjour, Sophie. Sophie, vous êtes propriétaire. C'est comme ça que vous complétez votre retraite.
Oui.
Est-ce que vous avez déjà dû vivre des situations d'impayés?
Alors là, c'est catastrophique. Il y a eu 3 commandements de payer. Je ne vous entends pas.
Moi, je vous entends très bien. Allez-y,
d'accord.
Sophie.
Oui, 3 commandements d'impayés. Et il y a eu c'est une situation en cours d'expulsion qui aurait dû avoir lieu. Il y a eu le d'impayés et défaut d'assurance et dégradation du studio, mais de toute façon on ne peut pas intervenir, les bailleurs ne peuvent pas intervenir quand il y a un ravage prouvé de studio, parce que de toute façon tout intervient au moment de la fin du bail.
Sophie, j'entends dans votre voix une grande détresse.
Ah oui, je suis en colère, parce qu'il y a eu 2 décisions de justice qui ont eu lieu, qui actent l'expulsion. Il y a eu un délai de prolongation du maintien dans les lieux qui n'a pas abouti par le locataire.
Ce qui veut dire qu'à l'heure où on se parle,
l'ordre devait intervenir le 6 octobre et a annulé cette intervention. Elle devait intervenir le 20 octobre et 3 heures avant, les forces de l'ordre ont annulé l'expulsion.
Sophie, ça veut dire, si je comprends bien, que à l'heure où on se parle, alors que la trêve hivernale commence, ceux qui ont non seulement ravagé le studio dont vous êtes propriétaire n'ont pas été et qui ne payent pas n'ont pas été expulsés. Je voudrais que la ministre puisse vous répondre, Emmanuel Wargon.
Alors Sophie, moi je vais pas vous... ça va être difficile pour moi de répondre à ce dossier particulier parce qu'à partir du moment où il y avait une décision de justice et ensuite une date pour qu'il y ait ce qu'on appelle le concours de la force publique, j'avoue que moi non plus, je comprends pas ce qui s'est passé. Donc, je suis prête à étudier le dossier avec vous. Évidemment, on peut pas mettre des gens dehors sans décision de justice. C'est normal, on est dans un état de droit. Si la décision de justice a eu lieu, dans ce cas-là, il faut comprendre ce qui s'est passé. Je reviens à mon point... que je disais juste avant, on a maintenant de quoi indemniser les propriétaires quand on n'a pas mobilisé la police ou la gendarmerie, et il faut qu'on vérifie que vous serez bien indemnisé, en tout cas dans cette période-là. Donc on va reprendre contact avec vous pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé dans ce dossier.
On garde donc Sophie en ligne. Quand vous entendez la détresse de Sophie dans sa voix, Sophie qui est donc propriétaire d'un studio qu'elle met en location pour compléter sa retraite, cette détresse-là, on l'entend aussi chez les propriétaires dont la maison est squattée. Vous étiez venu sur RMC, je m'en souviens parfaitement, Emmanuel Wargon, pour dire que ça n'arriverait plus, qu'il y aurait désormais des médiations, notamment pour permettre que les squatteurs puissent quitter sans délai ou même ne pas squatter du tout. On en est où aujourd'hui ? Quel est le bilan ?
Et ça marche vraiment bien en réalité. C'est-à-dire que nous avons changé la loi. Moi, je suis comme vous, les squats chez des gens, résidence principale, résidence secondaire, je trouve ça vraiment inadmissible. Et en fait, avant, la loi disait que si on ne réagit pas dans les 48 heures, ensuite, on est obligé de passer par tout ce process de décision de justice qui est long. Nous avons changé la loi en janvier dernier pour permettre au préfet, sur demande des propriétaires, d'intervenir. Et depuis, toutes les affaires très médiatisées se règlent. Et j'avoue que dans la médiatisation, on voit toujours le début. Il y a encore eu une affaire à Toulouse, là, il y a quelques jours.
Les squatteurs ont fini par partir.
Les squatteurs ont fini par partir pour une raison très simple. Le préfet les a mis en demeure, ça devait être, je crois, le mercredi soir, le mercredi matin, en leur disant « jeudi, j'interviens ». Et ben, le mercredi, dans la journée, ils étaient partis. Donc, ils ne sont pas partis parce que tout d'un coup, ils se sont rendus compte que ce n'était pas bien de squatter. Ils sont partis sous la menace d'une intervention policière.
À la suite donc, de la
possible,
décision que vous aviez prévue.
Du possible par ce changement de loi. Donc, il reste des cas, mais à chaque cas, le cas se règle. Et je vous avoue que dans les médias, on voit plutôt le début et on voit assez rarement la fin.
Emmanuel,
je voudrais vraiment le dire,
donc affirmer
les cas de squat de résidence principale ou secondaire se règlent tous en quelques jours, parfois c'est en quelques semaines, et maintenant en plus la procédure est mieux rodée, les préfets sont vraiment très mobilisés là-dessus, ça se règle, et le prochain cas signalé se réglera, ou pas signalé d'ailleurs, qu'il soit médiatique ou pas, se réglera de la même manière. On a les outils juridiques qui permettent de sortir un squatteur de résidence principale ou secondaire. C'était pas vrai il y a un an, on avait tous été très émus par la situation de ce retraité à Théoul-sur-Mer, et on avait changé la loi, et maintenant la loi permet de le faire. Donc je voudrais vraiment rassurer vos auditeurs, vos téléspectateurs. Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de nouveaux cas. Il y a des gens
mais on a désormais les outils.
On sait lutter contre ces cas.
Emmanuel Wargon, je voudrais qu'on parle de la question de ma prime Rénov. On en a parlé ce matin, vous l'avez peut-être entendu.
Oui, j'ai entendu.
À 6h50, chaque matin, RMC s'engage pour ceux qui nous écoutent et qui nous adressent parfois les difficultés auxquelles ils font face. Et depuis la rentrée, on a de nombreuses personnes qui nous contactent au sujet de ma prime Rénov. Ils disent au fond qu'ils ont joué le jeu de ma prime Rénov, qu'ils ont fait rénover leur logement, que comme on leur demande, ils ont avancé les sous, mais qu'ils n'ont pas obtenu remboursement. Je voudrais que vous écoutiez ces témoignages.
On avait droit à 8 100 €. Le 13 novembre exactement 2020, on a présenté la facture sur le dossier. On a voulu joindre le RIB et c'est là que ça a coincé, ça a bugué. Et on est coincé depuis.
Depuis le 24 septembre, on est bloqué parce qu'on ne peut pas appuyer sur continuer. Donc il faut appeler ma prime Rénov qui fait passer au service informatique et qui doit nous recontacter. Et là, je vous avoue qu'on a dû faire entre 25 et 30 mails. On a l'impression que ça n'avance pas et que c'est un peu volontaire, quoi.
On me doit 1 500 €, ma prime Rénov. J'ai toujours eu confiance dans mon gouvernement et je pensais vraiment que les choses étaient nickel, bien faites et tout. Mais on se rend compte qu'en fait, derrière, ça ne suit pas. C'est vraiment une usine à gaz et c'est une catastrophe, quoi.
Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Je leur réponds d'abord que dans la grande majorité des cas, on paye vite. ça ne rassure pas ces personnes-là, donc je voudrais parler après à ces personnes, parce que je comprends très bien la difficulté dans laquelle ça les met. Mais on a payé depuis le début de l'année environ 300 000 primes. Donc on paye vite et on paye massivement. On a beaucoup de demandes de MaPrimeRénov', puisque nous avons dépassé cette année les 600 000 dossiers déposés. C'est une excellente nouvelle, c'est une mesure très positive. Après, oui, je le reconnais tout à fait, il y a des dossiers sur lesquels on a des difficultés de traitement, pour des raisons administratives un peu bêtes qu'on essaye de corriger. Par exemple, le RIB qui est déposé pour payer n'est pas au nom exact de la personne qui a fait la demande. Si c'est monsieur qui a fait la demande, le RIB, s'il est au nom de monsieur et madame ou madame, ça marche pas. Donc, ce sont des problèmes administratifs qu'on cherche à rectifier, puisque nous sommes en amélioration permanente du système. On va avoir une lecture automatique des RIB. Nous avons des dossiers que j'évalue environ à 3000 dossiers depuis le 1er janvier 2020, donc 3000 sur environ 800 000 dossiers déposés, qui ont donné des vraies difficultés de traitement qui ne se règlent pas en quelques jours.
Vous considérez aujourd'hui que c'est 3000
plus longtemps.
3000 cas qui sont en souffrance.
Oui, c'est à peu près 3000 dossiers qui sont en souffrance. Et ça fait 3000 personnes pour lesquelles la promesse que nous avons faite n'est pas tenue.
Et c'est des gens qui ont sorti cet argent.
C'est 3000 personnes de trop. Enfin, 3000 personnes qui ont des difficultés qui ne devraient pas en avoir. Donc ça, c'est pas satisfaisant.
Ça va être réglé.
Il y en a 300 000 pour lesquelles ça se passe bien.
J'ai bien compris.
Il en reste 3000 pour lesquelles ça se passe pas bien. Et donc, c'est sûr qu'il faut qu'on le règle. On a mis en place une équipe dédiée à l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, pour traiter uniquement ces dossiers, qui sont des gens qui ne sont pas juste des téléconseillers qui vous disent le dossier est en cours de traitement et on vous rappellera, mais qui rentrent vraiment et qui vont pouvoir rectifier à la main, c'est-à-dire aller au-delà du système d'information pour pouvoir payer.
Est-ce que vous
donc
pouvez
j'ai
vous
bon
engager
espoir que ça se règle
est-ce que vous pouvez
dans les quelques prochaines semaines.
Semaines, mais vous vous rendez compte, pour ceux qui ont avancé, on entendait leurs témoignages, qui ont avancé ces sous, semaines, ça paraît très long.
Je veux pas vous faire de promesses inconsidérées, parce que je pense que les gens qui nous écoutent ont besoin d'avoir une parole qui sera tenue. Donc je préfère vous dire que ça va se régler en semaine. Avant, c'était un crédit d'impôt. Vous savez, Pauline, on a remplacé un crédit d'impôt par une prime. Le crédit d'impôt était versé un an et demi après la fin des travaux. Donc là, maintenant, nous, notre engagement, c'est 15 jours après la fin des travaux. C'est tenu pour vraiment la grande majorité des cas. Mais c'est vrai que pour les personnes pour lesquelles il y a un papier qui a été mal saisi au début ou une erreur quelque part,
il se retrouve bloqué pour des semaines.
De la faute de l'administration, ouais. C'est pas forcément de la faute de la personne qui a déposé. Les dossiers se sont bloqués. Donc moi, l'engagement que je prends, c'est qu'on traite ces 3000 dossiers dans les prochaines semaines.
Je pense qu'ils auraient préféré jour, mais bon, je comprends bien que vous préférez.
J'espère d'ici la fin de l'année. Vraiment d'ici la fin de l'année.
D'ici la fin de l'année, vous rendez compte, on est le 1er novembre,
ça fait 8 semaines.
Ils vont avoir Noël, ils ont avancé parfois des milliers d'euros.
Avant la fin de l'année, qu'on arrive à traiter tous ces dossiers en difficulté. Moi, je m'engage à renforcer notre capacité de traitement pour que ces dossiers-là, qui sont des dossiers identifiés et signalés, on arrive à les payer vite. Mais je voudrais pas décourager la grande majorité des Français.
Qui vont redouter, évidemment, d'avancer l'argent en disant, je suis pas sûr de récupérer mes sous derrière.
Encore une fois, avant, c'était un crédit d'impôt. Les sous, on les récupérait l'année d'après l'année des travaux. Là, on les récupère en moyenne 15 jours après la fin des travaux. Et je vous dis, il y a 300 000 dossiers qui ont été payés sans difficulté. En tout cas, le gouvernement porte très fortement cette politique. Il n'y a aucune idée derrière la tête de décourager ou quoi que ce soit. Au contraire, et effectivement, ces dossiers, nous devons à ces personnes.
Benoît Ballet, d'ailleurs, nous signale que depuis ce matin et sa chronique, il a à nouveau reçu depuis des mails pour signaler les difficultés.
Mais on va
récupérer
les mails que vous recevez de pour faire le lien.
Votre engagement et le nôtre, évidemment aussi, à suivre ces dossiers. Je voulais vous interroger aussi sur ce qu'on découvre en quelque sorte ce week-end, les salariés suspendus, les soignants, les serveurs, tous ceux qui ne jouent pas le jeu du pass sanitaire, soit parce qu'ils ne sont pas vaccinés, soit parce qu'ils ne font plus de tests. Ils devaient être suspendus de leur salaire et les patrons des départements découvrent qu'ils vont devoir sortir le RSA pour payer cela. Un certain nombre de patrons de départements de gauche, vous faites partie justement, vous, de l'aile gauche du gouvernement, 12 présidents de départements disent, mais attendez, ça suffit, je vois pas pourquoi nous, on devrait payer pour ceux qui refusent ce pass sanitaire. Vous leur répondez quoi ?
Mais d'abord, moi j'espère que les salariés qui sont suspendus le sont temporairement, parce que nous, notre objectif, c'est de favoriser la vaccination, évidemment, à la fois pour les soignants, et puis de favoriser la mise en place d'un pass sanitaire dans de bonnes
conditions. Mais entre-temps, pourquoi ce serait au département de payer, au fond ?
Après, c'est normal que les gens qui, finalement, perdent leur salaire, en tout cas momentanément, soient quand même soutenus par un peu de solidarité nationale. Je pense pas qu'on parle de beaucoup de personnes. Le RSA, c'est le dernier filet de sécurité quand il ne reste rien juste pour vivre. Je crois vraiment qu'il faut le prendre comme une situation temporaire pour convaincre ces personnes. Et on voit que les soignants, globalement, ont joué le jeu. On voit que les soignants, globalement,
se sont tous fait vacciner.
Donc, c'est une histoire...
Non, mais presque.
Ça va pas forcément durer très longtemps.
Mais vous avez
remarqué
que
il y a quand même besoin d'un peu de solidarité nationale.
Vous voulez incarner l'aile gauche du gouvernement. Vous remarquez quand même que ce sont principalement les présidents socialistes des départements. Ça vous a pas étonné ?
J'avoue que j'ai pas vu cet appel des présidents de département. Mais après, moi, je crois que quand on croit à la solidarité nationale, elle est forcément inconditionnelle.
Vous savez à combien il est le RSA aujourd'hui ?
Oui, il est un peu au-dessus de 550 euros par mois.
Exactement, 565 euros. Je voulais aussi vous interroger sur Éric Zemmour, parce qu'au fond, on a quand même l'impression que vous êtes un peu mal à l'aise avec la question Zemmour, pas seulement vous, mais le gouvernement. C'est d'ailleurs ce que dit Xavier Bertrand qui, ce week-end, dit, on a l'impression que le gouvernement ne sait pas réagir, ne sait pas quoi faire, quoi dire. Vous voulez pas lui donner trop d'importance, vous voulez lui donner plus d'importance? C'est quoi votre position? Il se peut quand même qu'il soit l'adversaire numéro un d'Emmanuel Macron au deuxième tour.
En tout cas, s'il est l'adversaire, s'il est un adversaire qui monte, c'est aussi parce qu'il est beaucoup monté dans les médias. Il y a un chiffre qui est quand même très frappant, 14 000 articles qui ont cité Éric Zemmour depuis le mois de septembre. Bon, en tout cas, les médias lui ont donné une place très importante. Moi, je crois qu'il faut démonter ses arguments. Éric Zemmour, c'est un polémiste. C'est quelqu'un qui aime la rhétorique, mais qui a aussi tendance à tirer la réalité ou l'histoire dans le sens qui l'arrange, en disant des choses qui sont parfois totalement inexactes. Moi, j'ai débattu avec Éric Zemmour, intervieweur, j'ai pas débattu avec
Éric
Zemmour.
Quand vous aviez été sur CNews.
Mais je suis allée deux fois sur CNews, une fois pour parler des énergies renouvelables et une fois pour parler du logement. Et sur le logement, c'était plein d'inexactitudes. Il m'expliquait que le logement social, il y a essentiellement des immigrés, c'est absolument pas vrai. On a 80% de personnes qui habitent dans le logement social qui sont de nationalité française. Et quand je lui réponds ça, il me dit oui, mais en fait, c'est pas comme si c'était des vrais Français. Donc, il y a un moment où il faut rentrer dans le débat avec Éric Zemmour pour montrer que ce qu'il dit, voilà, c'est pas parce qu'il le dit avec force, conviction et qu'il l'assène que c'est vrai. Et je pense que c'est ça que nous devons faire.
Fondamentalement, vous êtes en désaccord avec Anne Hidalgo quand elle dit ce week-end, moi je ne veux pas débattre avec Éric Zemmour, on ne débat pas avec ce guignol.
Moi, je crois qu'il vaut mieux débattre. Après, il est dans une position bizarre. Les deux débats, parce que je l'ai fait deux fois en trois ans au gouvernement, une fois en tant que secrétaire d'État à l'écologie et une fois comme ministre du logement, c'était des débats intermédiaires entre un intervieweur et finalement quelqu'un qui prend position. Au moins maintenant, les choses vont devenir plus claires. S'il est candidat, il défendra des idées et on pourra expliquer si on est d'accord ou pas avec ses idées.
Idées contre idées, un vrai débat franc. Merci Emmanuel Wargon d'être venu ce matin dans le studio d'RMC et RMC Story. Je rappelle que vous êtes la ministre déléguée chargée du logement et vous êtes d'ailleurs aussi présidente du Conseil National de Territoire du Progrès, qui est donc cette aile qui se veut l'aile gauche du macronisme. On le voit, pour l'instant, c'est pas forcément évident, mais au moins pour vous, c'est incarné. Il est 8h54. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec vos grandes gueules. Je vous souhaite une excellente journée de 1er novembre. Je serai au rendez-vous demain matin. À demain.